Alors ce matin, je voudrais partager avec vous quelque chose, déjà. Vous êtes content d'être venu? Alors, je voudrais parler de quelque chose que j'avais jamais vraiment remarqué. Et je sais pas. Bon, en lisant l'évangile de Jean, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est la première question et la dernière question de Jésus dans cet évangile. Voilà. Ça semble bizarre, hein, peut-être, mais vous allez voir, ces deux questions, elles se répondent, elles sont fondamentales, elles nous interpellent tous, qu'on soit chrétien, pas chrétien. On se les pose très très souvent dans notre vie au quotidien. Voilà, ma prière ce matin pour chacun, c'est qu'on reparte avec ces questions que Jésus nous pose et de les voir, c'est pas un fardeau, mais c'est une bénédiction et c'est une manière de se poser. Jésus pose des questions, on se pose devant le roi des rois et on écoute ses questions. Et puis ces questions, vous allez voir, nos réponses peuvent être chaque jour très différentes, mais elles peuvent, ces questions, nous accompagner toute notre vie. Enfin, c'est ce que j'ai reçu, moi, en tout cas. Alors parfois, on va les oublier, évidemment, hein, on n'est pas parfait. Parfois, elles vont revenir, et surtout quand on va être à des points un peu forts de notre vie. Vous savez, des carrefours, il y a des points plus forts. Des points plus faibles dans nos vies. Voilà. Donc la première, ce n'est pas un 11e commandement. Peut-être certains ont déjà pris leur Bible, ont regardé, mais c'est laquelle? Il y en a qui l'ont trouvé? Et, pardon? Bravo. Que cherchez-vous? Voilà. Ce n'est pas un discours. Non, les premiers mots de Jésus adulte, c'est quand même intéressant. Ils prennent la forme d'une question. C'est pas un cliché, c'est une question tellement simple. Jésus ne déboule pas dans le monde avec un discours très formaté. C'est ça qui a dérangé. Sa première préoccupation à Jésus, c'est pas d'être entendu. C'est pas. Mais c'est surtout d'écouter. Et donc, que cherchez-vous? Voilà sa première question en 1 Jean 38, verset 38. C'est sa première parole dans l'évangile de Jean. C'est quand même incroyable. Hein, voilà. Le Seigneur applique ce proverbe qui dit, proverbe 18, et puis qui peut nous parler à chacun, qui répond avant d'avoir écouté, manifeste sa sottise et se couvre de confusion. Moi, ça m'a parlé, hein, je ne vous cache pas. Je l'ai manifesté souvent, ma sottise. Et peut-être pas assez couvert de confusion, mais c'est un autre problème. Alors, Jésus pose une question simple, mais qui est loin d'être une question simple. L'air de rien, cette question, elle va nous percuter, parce que c'est la plus fondamentale des interrogations dans nos vies, en fait. C'est quelque chose qui nous colle à la peau toute notre vie, hein, comme la super glue, là. Ça s'incruste en nous du matin au soir. C'est la recherche du sens de la vie, en fin de compte. C'est ça, cette question. Alors, si on n'est pas tous les jours tenaillé par des angoisses, par des questions existentielles, c'est vrai que ce serait un peu épuisant. On fonctionne tous, à quelque chose. Hein? On a besoin d'une raison pour se lever le matin, aller au travail, s'occuper de la maison, s'occuper de sa femme ou de son mari, prendre du temps avec des amis. On a ce genre de choses à vivre. Et on comprend tous très vite qu'il ne suffit pas d'exister pour vivre. C'est autre chose. Pour accomplir les choses de la vie, hein, exploit ou routine ou quotidienne, il faut du sens et de l'énergie. Hein. Alors j'ai pris la comparaison avec une voiture. Hein. Pour arriver à destination, une voiture, elle a besoin de carburant et d'un GPS. Pour s'aventurer sur les routes de la vie, deux risques sont à éviter, tomber en panne de sens et se perdre. Enfin, des fois, on peut se perdre avec le GPS, hein, ceci dit. Je pensais à ça. Moi, une fois, je devais juste aller dans un truc qui était juste de l'autre côté de la frontière suisse. Mais je n'avais pas la vignette d'autoroute, c'était compliqué. Donc, je cherchais des petites routes. Chaque 30 secondes, ce GPS qui me disait « Faites demi-tour avec prudence ». Puis j'ai tellement tourné, je me suis fait arrêter par la volante. Parce qu'à force, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Voilà. Bon, c'est... il ne m'a pas bien guidé ce jour-là. Donc, le Seigneur demande « Que cherchez-vous ?» Et puis, je ne crois pas que cette question, il nous la pose une fois quand on se convertit. Je crois qu'il nous la pose chaque jour. Hein. Et cette question, on se la pose nous aussi. Qu'on soit chrétien, pas chrétien, qu'est-ce qu'on cherche ? Qu'est-ce qu'on cherche dans la vie ? C'est quand même pas anodin qu'il ait mis ça comme première question dans l'Évangile. Hein. Et paradoxalement, pour beaucoup, la recherche du sens a pris le pas sur la découverte. Hein. Des fois, quand on écoute, chercher a plus de valeur que trouver. Chercher a plus de valeur que trouver. Souvent, celui qui a trouvé, ben, il est suspect. Hein. Si vous dites à quelqu'un que vous avez trouvé le roi des rois, vous semblez plutôt être intolérant, ou des fois on peut même penser que vous êtes des fanatiques. Alors que celui qui cherche est rassurant. Hein. C'est bizarre quand même. Et ce principe-là, si vous y réfléchissez, il ne viendra à personne de l'appliquer dans la vie, dans d'autres domaines de la vie. Hein, imaginez quelqu'un qui joue au loto. C'est quoi pour lui le plus important ? C'est jouer ou c'est gagner ? A priori, c'est gagner. Hein, ou alors, il est spécial, lui, comme joueur. Hein. Donc, des fois, il semble que la quête du trésor, ça devient plus important que le trésor lui-même. On est fou, quand même, hein, des fois, quand on y réfléchit. Hein. Donc le Seigneur, il ne demande pas « cherchez-vous ?» Pas du tout. Il demande « que cherchez-vous ?» Et il y a une sacrée nuance. Hein. Alors, si nous ne savons pas ce que nous cherchons, ben c'est idiot ce que je vais dire, hein, c'est une lapalissade, mais quelle chance avons-nous de le trouver ? Pas, a priori, peu. Le Seigneur, il nous amène à une vraie réflexion, à son point essentiel, l'objet de la recherche. Ou si on le disait autrement, c'est quoi mes besoins ? Quels sont mes besoins ? Cette question, elle nous renvoie à nos besoins les plus profonds. Les besoins du cœur, de l'esprit, nos besoins d'amour, nos besoins de paix intérieure, besoin d'espoir, besoin de joie, besoin de pardon, besoin de liberté, besoin de relations, besoin d'estime de soi, tellement, hein ? On a tellement de besoins. À cause du péché, on a tellement de besoins. Même après avoir trouvé le Seigneur, on a des besoins. C'est pour ça que cette question, elle doit nous coller jusqu'à la fin de notre vie. Le Seigneur, lui, il vient poser sa marque sur le temps. Qu'on soit chrétien, encore une fois, ou non chrétien, parfois, des fois, on peut contester ses propos, c'est-à-dire on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire ? Mais on ne peut jamais l'accuser de parler trop, vous savez, de prendre de la distance. Il est Dieu, pourtant. Et pourtant, il parle à hauteur d'homme, si j'ose dire. Quand il arrive dans le monde, il n'a pas rendez-vous avec l'histoire, bien sûr, aussi, mais il a rendez-vous avec les gens, il a rendez-vous avec des personnes. Hein. Jésus, il se confronte à toutes les situations de la vie, tous les états d'âme, à tous. Qu'on soit paumé, qu'on soit sûr de l'endroit où on va, il est à l'aise partout. Il est à l'aise partout dans nos vies. Hein. Donc Jésus n'est pas venu préparer le grand soir, mais faire lever le grand jour. Hein, Florence l'a rappelé, on attend quoi ? On attend le Seigneur. Hein, celui enfin où la lumière brille dans l'obscurité. Donc un messager est passé avant lui, hein, pour préparer son chemin, c'est Jean le Baptiste. Il propose un changement radical de vie. C'est ça son message à Jean le Baptiste, si vous relisez dans l'évangile, surtout de Matthieu. Il propose vraiment un changement radical de vie, comme le Seigneur va le faire à sa suite. Et Jean le Baptiste, qu'est-ce qu'il fait ? Il demande aux gens de se repentir et de manifester cette repentance. De quelle manière ? Par le baptême d'eau, tout simplement. Et parfois, aujourd'hui en tout cas, des fois on en fait une grosse affaire d'État, hein, c'est une parenthèse, mais le baptême. Vous savez, des fois, alors que le baptême, c'est quoi ? Il signifie ma repentance, il signifie ma conversion, il signifie mon appartenance au peuple des rachetés, et il signifie ma déclaration publique devant mes frères et sœurs. Voilà, c'est ça le baptême. Et quand on hésite à se faire baptiser, en fin de compte, on dit non à tout ça. Voilà. Alors certains ils vont nous dire, parce qu'ils sont timides, on est tous timides. Enfin, tous, plus ou moins, quoi, mais c'est pas le sujet, je veux dire. Manifester sa conversion devant ses frères et sœurs, C'est ça le baptême. Simplement cela. Il ne faut pas le voir plus loin que ça, et c'est déjà énorme. Donc Jean, voit venir Jésus. Il ne le connaît pas, hein, parce qu'il a vu dans le ventre de sa maman et les deux mamans, mais il ne le connaît pas, a priori. Hein. Enfin, ou alors rien ne le dit, pendant tout ce temps en tout cas. Mais il l'identifie au premier regard. Hein. Dès qu'il le voit, il le sait. Les mots qu'il dit sur le Seigneur Jésus, ils sont déconcertants. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il sait qui est Jésus, l'agneau de Dieu. Alors, évidemment, dans notre inconscient, je pense qu'on se sera attendu à autre chose. Hein. Démonstration divine plus forte, tapis rouge, enfin nous, on est comme ça, quoi. Hein. C'est quand même pas tous les jours que Dieu visite les hommes. Quand même. Hein, ça me rappelle, ça, je ne sais plus son nom, il y en a qui vont me le dire. Comment il s'appelait le gars qui conduisait la Jeep, là, lunaire? Non, Armstrong, il a marché. Aldrin, c'est ça. Aldrin, il avait dit un truc, parce qu'il était venu, je l'avais écouté, j'étais jeune à l'époque, il avait dit un truc extraordinaire. Quand les journalistes lui demandaient, c'est extraordinaire, vous avez conduit une Jeep sur la Lune, c'est extraordinaire, l'homme a marché sur la Lune, enfin, etc. Il disait non, ce qui est extraordinaire, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, c'est que Dieu a marché sur la Terre. Enfin, ça m'avait percuté. Gardez-la, c'est pas mal. Dieu a marché sur la Terre. Ça, c'était incroyable. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a Jésus, un homme. Il est seul, a priori, hein, il vient de se faire baptiser, il ressort. Bon, il s'est passé un petit truc quand même, hein, la voix de Dieu, la colombe, enfin, c'est pas mal quand même. Mais juste après, il s'en va, il est seul. Il s'en va. Et pourtant, Jean aussi va dire, c'est lui le Dieu visible, celui qui nous fait connaître Dieu. Celui qui nous fait connaître Dieu. Et peut-être, moi en tout cas, peut-être avant de me convertir, qu'on me racontait, qu'on m'évangélisait, qu'on me racontait ça, je trouvais, des fois je me disais, c'est plus le Dieu risible, entre guillemets, que visible. Enfin, parce que ça faisait un peu, ça faisait pas sérieux, quoi. Et en y réfléchissant, moi je crois que c'est parce que, paradoxalement, c'est parce que c'est ça qui rend encore l'histoire encore plus crédible. Parce qu'elle est tellement hors du commun, ça la rend crédible parce que si des hommes l'avaient écrite, jamais ils auraient écrit ça. Ça aurait été plutôt un truc genre super-héros, le gars qui sait tout, qui va tout faire, un costaud, quoi. Pas un gars tout seul qui marche comme ça, tranquille. Et ça, c'est super. Et en même temps, quand on y pense, il se présente comme l'agneau de Dieu. C'est pas rassurant, un agneau, ça manque un peu, ça semble manquer de force. Hein. Et pourtant, cet agneau, il nous dit « Que cherchez-vous ?» Et il est dit de lui qu'il ôte le péché du monde. C'est la plus grande des puissances, ôter le péché du monde. C'est vraiment, voilà. Et en même temps, celui qui pose, moi je l'ai appelé la mère de toutes les questions, hein, « Que cherchez-vous ?» C'est le même qui va déclarer « Cherchez et vous trouverez. » C'est paradoxal quand même. Hein. « Cherchez et vous trouverez. » « Que cherchez-vous ? Cherchez et vous trouverez. » Alors c'est une belle invitation. Jésus, il s'adresse à des gens qui sont dans la vraie vie. C'est ça qui est super. Il ne s'adresse pas à des gens... Non, c'est des gens simples. Et là, on a André et Pierre. André et Pierre, c'est nous. Hein. Ça nous représente, en fin de compte. C'est des pêcheurs. Pas des pêcheurs à la ligne. Hein. Pas des... Ils ne vont pas au vistre, là, pêcher. Non. Eux, c'est pas des pêcheurs du dimanche. Quoi. Pêcher, c'est leur travail. Puis a priori, même aujourd'hui, pêcher, c'est dur, mais à l'époque, ça devait être des gens costauds. Hein. C'est sûr, hein, on ne peut pas être un gringalet et pêcher, être pêcheur, ça c'est sûr. Ils ont un environnement limité, hein. Pas d'internet, pas de réseaux sociaux, on ne sait pas la dernière truc de l'autre qui a fait ça ou ça. I like, I don't like, bon bref. Il n'y a pas de ça, c'est très très limité tout ça. Mais ça ne les empêche pas de penser, ça c'est bien. Et ça ne les empêche pas de vouloir savoir. Parce que c'est des chercheurs. Ils n'en ont pas l'air comme ça, mais ce sont des chercheurs. Ils cherchent. Ce n'est pas des philosophes. Ce n'est pas des historiens. Hein, mais ils veulent des réponses. Et dans ce sens-là, moi, je trouve que c'est, dans cette approche-là, ça doit être des modèles pour nous, ces gens. Des vrais modèles. Hein. Eux, ils cherchent des réponses simples, fiables. Hein. Ils savent que la vie, ce n'est pas que manger, ce n'est pas que dormir, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais ils ne savent pas encore. Ils ne savent pas ce que ça peut être. Alors ils pensent avoir trouvé chez Jean une réponse. Hein ? Mais quand Jean va désigner Jésus comme l'agneau de Dieu, ils comprennent quoi ? Ils comprennent que Jean, c'est la clé, mais ce n'est pas la porte. Ils comprennent que c'est l'itinéraire, mais ce n'est pas le chemin. C'est la lampe qui brille, mais ce n'est pas la lumière. C'est celui qui devait annoncer, c'est celui qui devait préparer. En ce sens-là, il est tout ça. Et là, qu'est-ce qu'ils font ? André et Pierre, ils aiment Jean, hein, je pense qu'ils l'apprécient, mais ils cherchent vraiment, ils cherchent vraiment. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils marchent à la suite de Jésus. Ils s'en vont. Alors bon, moi j'aime le cinéma, j'aime bien imaginer la scène. Vous imaginez, quand vous le direz, ou vous le relirez, vous verrez. Donc ils partent à sa suite. Moi j'imagine très bien, Jésus il marche tranquille, parce qu'il a l'air vraiment tranquille. Hein. Il marche, et puis il y a deux hommes qui le suivent. Moi je me mets à leur place, ils doivent être un peu gênés quand même, un peu timides, un peu collants, un peu pénibles peut-être. Hein. Et ils marchent, hein, ils marchent. Et imaginez ça, Jésus il marche, puis d'un coup il se retourne, puis il est fixe du regard. Puis c'est le regard de Dieu. Hein. Jésus, quand on a voulu l'arrêter, vous vous rappelez, on cherche Jésus, c'est moi, ils tombent tous par terre. Ça devait quand même être un peu puissant quand même, hein. C'est pas que l'agneau. Et là, il se retourne, il regarde dans les yeux, et il leur dit, que cherchez-vous ? Le regard de Jésus, ça doit calmer. Ça doit bien droit dans les yeux. Hein. Il n'avait rien pour attirer le regard, mais il avait un regard. Quoi. Hein. Et eux, ce Jésus-là, ils ne vont pas le laisser tomber. Ils ne vont pas, pardon, passer leur vie sans rien lui dire. Hein. Ils ont dû se préparer en marchant, ils ont dû réfléchir. On va lui dire ça, on va lui dire ça, etc. Là, ils ont une occasion unique d'exprimer ce qu'ils sont. Ils ont une occasion unique d'exprimer ce qu'ils veulent, d'exprimer leurs peurs, leurs espoirs, vous savez. Quand on rencontre le Seigneur Jésus, c'est vraiment ça, on se confie, on lui donne notre vie, et on lui donne tout ce qu'on a de bon et de moins bon. Hein. Et voilà. Et la manière dont ils vont répondre, je trouve que la réponse, elle déçoit un peu. Hein, je ne veux pas être dur avec eux. La réponse, elle déçoit beaucoup même. Moi, il me semble que si j'avais été à leur place, parce qu'on s'imagine toujours meilleur que les autres, j'aurais eu des questions. Ils se seraient retournés, j'aurais dit, bon, Seigneur, voilà, je vais te dire. Hein ? C'est vrai, ils cherchent le Messie. Ils cherchent le Messie. Ils croient dans leur religion, ils croient en l'Éternel, donc ils attendent le Messie. Hein ? Et en plus, Jean-Baptiste l'a confirmé. Donc ça les a décidés à suivre le Seigneur. Et là, franchement, ils ont la question la plus bidon qu'on puisse imaginer. Alors, je vous l'ai dit. Maître, où demeures-tu ? Franchement, où tu habites ? Putain, vous cherchez le Messie ? Vous suivez le Messie ? Il se retourne et vous lui demandez juste, tu habites où ? Elle est bien ta maison ? C'est pas sérieux. Hein ? Ils ont la seule question qui leur sort, c'est ça, tu habites où ? C'est pas génial. Hein. Maintenant, moi, je vais vous dire un truc, je ne veux pas les juger, parce que je crois qu'on est comme eux, en fin de compte. Je pense que ça illustre souvent notre vie. Hein. On ne sait pas quoi dire au Seigneur. On ne sait pas quoi lui demander. On est un peu gauche, parfois. Hein. On ne sait pas quoi répondre, alors que la réponse, elle est simple, tellement simple. Hein. Pardon. Et là, j'en viens à la dernière question du Seigneur, qui revient trois fois, elle aussi fondamentale, Jean 21, 15, 16 et 17. Vous la connaissez ? C'est quoi ? Voilà. Pierre, m'aimes-tu ? Trois fois. Hein ? Pareil, la dernière question, la première, que cherchez-vous ? La dernière, Pierre, m'aimes-tu ? Frédéric, m'aimes-tu ? Olivier, m'aimes-tu ? Elvis, m'aimes-tu ? À chacun. Il pose cette question. Hein. Alors, cette question, elle est peut-être la plus essentielle. Celle-là, elle récapitule tout dans notre vie. L'apôtre Paul l'a compris quand il avait écrit en Corinthiens, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Hein ? Si on n'est pas sur terre pour aimer, si on n'est pas sur terre pour être aimé, alors on est là pour quoi ? Pour pas grand-chose. Hein ? La question ultime, c'est aussi la question intime, personnelle, hein ? Celle qui compte. Jésus nous la pose maintenant, du ciel. Et quand on ira au ciel, justement, peut-être qu'il nous demandera pas seulement « qu'as-tu fait de bien ?» pas seulement « qu'as-tu fait pour moi ?» mais peut-être qu'il va nous demander « m'as-tu aimé ?» M'as-tu aimé ? Et c'est quoi la manifestation concrète de l'amour pour Jésus ? La manière de le dire différemment, c'est « comment ton amour pour moi s'est-il traduit concrètement envers les autres ?» C'est ça l'amour. Il n'y en a pas d'autre. Hein. Quelqu'un a écrit cette phrase, je ne sais pas qui c'est, mais c'est bien, je vais vous la dire. On peut faire du bien aux hommes sans les aimer, mais on ne peut pas les aimer sans leur faire du bien. C'est fort, hein ? Genre, on peut faire du bien aux hommes sans les aimer, mais on ne peut pas les aimer sans leur faire du bien. Hein ? On peut refuser l'amour de Dieu, surtout quand, des fois, toujours pareil, pensez à l'illustration. Vous connaissez l'histoire, Pierre a renié 3 fois le Seigneur. Il est mal quand même. Dans nos vies, on a renié le Seigneur. Renier le Seigneur, vous savez ce que ça veut dire ? Renier, c'est dire non. Quand Dieu nous demande des choses, souvent on dit non. C'est renier le Seigneur. Dire non. Nier ce qu'il me demande. Donc, c'est pas que ça, mais ça a ce sens-là aussi. Donc, Pierre est mal. Comme nous, des fois, dans nos vies, on peut être très mal. Et on peut refuser l'amour de Dieu. Pensez à ça. Vous pouvez, chacun, on peut refuser l'amour de Dieu, mais on ne pourra jamais empêcher Dieu de nous aimer. C'est rassurant, hein ? On ne pourra jamais l'empêcher. La question de Jésus, c'est le point de départ, c'est la ligne d'arrivée du projet de Dieu dans notre vie. On a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu est amour. Le péché nous a volé la faculté d'aimer. Et le Seigneur, on a fêté dimanche dernier, par sa mort et sa résurrection, il nous l'a rendu. On a été reconnecté à Dieu. C'est pour ça que grâce à Dieu, on est capable à nouveau d'aimer. Et encore une fois, c'est pareil, ça semble le détail, mais Jésus ne demande pas « aimes-tu ?» mais « m'aimes-tu ?» Vous voyez ? On aime peu, on aime mal, notre amour est déséquilibré souvent, parce qu'on s'aime trop, on n'aime pas assez les autres, et Dieu, des fois, encore moins. C'est un vrai défi, l'amour. Hein ? On confisque souvent l'amour à notre profit, alors que le principe même de l'amour, c'est les autres. On ne peut pas s'accaparer l'amour. Hein ? L'amour, il est donné, il est partagé. Et là, encore une fois, dans ce cas, Pierre, qu'on retrouve à la fin de l'évangile, hein, il est mal, comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus va lui demander par 3 fois « m'aimes-tu ?» Alors, bien sûr, l'explication classique, et qui est certaine, d'abord, elle est demandée avec pleine délicatesse. Pourquoi 3 fois ? Parce que Pierre a renié 3 fois le Seigneur. Donc déjà, c'est une manière de le réconcilier. Ce n'est pas une manière de le réconcilier avec le Seigneur, cette question. C'est une manière de réconcilier Pierre avec lui-même. Pierre avec lui-même. C'est lui qui a un problème. Le Seigneur l'aime. Lui, il n'a aucun problème avec ça. Hein ? Le Seigneur n'a jamais cessé d'aimer Pierre, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais Pierre, il ne sait plus comment aimer Jésus. Il ne sait plus. Parce que ça a foiré. Parce qu'il a péché 3 fois. Parce qu'il a renié. Parce qu'il a renié l'homme qu'il a suivi pendant 3 ans. Et pareil, dans nos vies, ça peut malheureusement nous arriver aussi. Hein ? Alors on peut se dire qu'en 3 fois, c'était pour, donc comme je vous disais, réconcilier, mais peut-être aussi, et pour lui, mais aussi pour nous, qu'il y a 3 dimensions qui doivent être présentes dans notre vie. Dans l'amour, il y a 3 dimensions. Il y a l'amour pour Dieu, ça c'est le bon ordre, il y a l'amour pour le prochain, et puis il y a aussi l'amour de soi. L'amour de soi, c'est juste quand il est débalancé qu'il n'est pas bon. Mais l'amour de soi, c'est... Dieu n'est pas contre ça. On doit s'aimer. On doit aimer ce que Dieu a fait de nous. Donc ça, c'est une réconciliation aussi avec soi-même. Hein. Hein, c'est pas de l'humilité de dire « je ne m'aime pas ». Ça, c'est pas de l'humilité. Je suis conscient de ce que Dieu fait dans ma vie. C'est... On peut voilà, apprécier ce que Dieu a fait. Hein. L'amour de Jésus, vous savez, ça change la vision négative des commandements. Vous voyez. Parce que ça en supprime les contraintes. Parce que ça donne envie de les appliquer. Hein. Quand Jésus nous donne des commandements, on a envie de les appliquer par amour. Hein. En 1 Jean, Jean il dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements, ils ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas pénibles. Voilà. Donc la question posée à Pierre nous est posée à nous aussi, bien sûr, par Jésus. Et il attend la même réponse. Il attend la même réponse. Hein ? Seigneur, tu sais tout. Seigneur, tu sais tout. Ben, tu sais que je t'aime. Et quand tu sais que la période où je t'aime peut-être moins, parce que j'ai des problèmes, parce que j'y arrive pas, même ça, je sais que tu le sais. Voilà. Seigneur, tu sais tout. Pierre, il dit plus, oui, Seigneur, je t'aime. Il dit, tu sais tout. Il a compris, il a reçu en profondeur la preuve. Et la meilleure, oui, des preuves, vous savez ce que c'est ? Ça, c'est pareil. Gardons ça en modèle parce que c'est génial. Dans 1 Pierre, Pierre, il a écrit un truc avec ce qu'il avait fait, hein, parce que quand on parle de quelqu'un vraiment catastrophique spirituellement, dans le sens de l'échec, on prend toujours Pierre. 3 fois, il a renié le Seigneur quand même. C'est pas rien, quoi. Hein, c'est pas rien. En 1 Pierre, l'apôtre Pierre, il écrit « L'amour couvre une multitude de péchés. » L'amour couvre une multitude de péchés. C'est ça qu'on doit garder. L'amour couvre une multitude de péchés. C'est incroyable. Et c'est l'homme qui a renié le Seigneur 3 fois qui a écrit ça. Bien sûr qu'il a été restauré. Bien sûr. C'est la preuve. À nous de nous emparer de ce genre de preuve. C'est des modèles. C'est des modèles. Voilà. Voilà. Voilà ce que j'avais sur le cœur. Ces deux questions... Moi, j'aime bien les trucs un peu, pas mémotechniques aussi, un peu, quoi, mais simples à se souvenir, vous savez. Voilà. Pour la première, au début, si vous vous rappelez, je vous ai dit, on ne sait pas quoi demander ou on ne sait pas quoi répondre à ce que cherchez-vous. Et je vous ai dit, la réponse est tellement simple. Mais je ne vous ai pas donné la réponse. La réponse, c'est la suivante, à mon avis. Chaque fois dans notre vie, dans toutes nos circonstances, bonnes, mauvaises de notre vie, qu'on a le sentiment de ne pas savoir, qu'on a le sentiment qu'on ne sait plus. Pensons à cela, pensons que le Seigneur est toujours là, et il nous dit « Que cherchez-vous, mes enfants ?» Et notre réponse, et c'est vraiment ça que je voudrais vous partager, notre réponse, elle est simple. Toi, Seigneur, c'est toi. Qu'est-ce qu'on cherche ? Toi. Toi, parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Toi, parce que tu es le bien le plus précieux. Toi, parce que en toi, tout est renfermé. Toi, parce que tu comptais, tu es là avec nous, toi qui nous encourages. Toi, toi, toi. Quoi d'autre ? Hein ? Quoi d'autre ? Toi, le Seigneur de la vie. Et pour la seconde, il ne s'agit plus d'aimer Dieu pour qu'il m'aime. Il ne s'agit plus d'aimer Dieu pour qu'il m'aime. Mais de l'aimer parce qu'il m'aime. De l'aimer parce qu'il m'aime. Donc, ce toi et cet amour. Hein ? L'insistance d'amour du Seigneur est nécessaire parce que notre amour à nous, il est moins constant. Hein ? Nous, il est quand même variable. Hein ? Mais heureusement, le Seigneur a apporté des solutions pour ça. La parole de Dieu nous invite à nous y plonger tous les jours, ça a été dit ce matin. Plongeons-y tous les jours. La communion avec les frères, la prière, hein, quand on se sent mal aimé, quand on se sent abandonné, la communion avec les frères, la prière, l'église locale, tout cela joue ce rôle pour nous dans nos vies. Hein. Et ça, ça nous rappellera que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est le fondement. Voilà. Voilà. Si certains... je pense que Fred a dit qu'on allait prier pour la Sainte-Seine. Je voudrais inviter les personnes pour la Sainte-Seine. Puis Fred, tu la présenteras. Mais... Et après, je voudrais vous inviter, ceux qui le souhaitent, à vous approcher, qu'on ait un temps de prière pour, je ne sais pas, si vous cherchez quelque chose, si vous vous sentez peut-être mal aimé, si vous voulez. Moi, je pense que c'est l'occasion de prier les uns pour les autres. C'est la force de l'Église, c'est la bénédiction de l'Église, c'est le devoir de l'Église. Donc, ne ratons pas cela. On va prier les uns pour les autres. Amen. Amen, soyez bénis. Fred, tu viens. Olivier ?